Midi et demi sur France Culture. Bonjour Antoine Marette.
Bonjour Brice. Et bonjour à tous. Défilé restreint pour ce 14 juillet, placé sous le signe de la crise sanitaire, la menace d'un rebond de l'épidémie était visuellement présente ce matin, place de la Concorde. Pour ce 14 juillet si particulier, le chef de l'État renoue avec une tradition à laquelle il avait tourné le dos, l'interview présidentielle. Ce sera tout à l'heure, nous décrypterons les enjeux politiques et économiques de cette intervention très attendue. Une plainte contre X pour dénonciation calomnieuse et diffamation après de fausses accusations sur les réseaux sociaux. Elle concerne l'agression mortelle du chauffeur de bus de Bayonne. Dans l'actualité internationale, l'ouverture aujourd'hui devant la Cour pénale internationale du procès d'un djihadiste malien. Il est poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, viol et esclavage sexuel. Il est notamment impliqué dans la destruction de mausolées à Tombouctou en 2012 et 2013. Donald Trump et Jair Bolsonaro quasiment montrés du doigt par l'OMS au sujet de leur gestion de la crise de la Covid-19. Les États-Unis et le Brésil cumulent à eux deux près de la moitié des nouvelles contaminations dans le monde. C'est un défilé du 14 juillet inédit qui a eu lieu ce matin, un mini-défilé confiné à la Concorde, à l'ombre de la Covid-19. 2000 militaires seulement, moitié moins que d'habitude, pas de blindés, mais un défilé aérien. Bonjour Nathalie Hernandez.
Bonjour.
Vous êtes pour nous sur place, une configuration unique donc de ce défilé qui illustre la menace d'un rebond de l'épidémie.
Oui, en effet, deux temps forts ont marqué ce 14 juillet qui a pris plutôt l'allure d'une grande fresque que d'un défilé. Le premier, l'hommage au général de Gaulle, avec dans les airs la patrouille de France et les avions de la Royal Air Force. Et au sol, les marins du porte-avions portant le nom du général et leur commandant Guillaume Pinget.
Cette année, c'est un triple anniversaire pour le général de Gaulle. On est très fiers de porter son nom et d'essayer de représenter les valeurs qu'il porte et qui inspirent l'équipage au quotidien. Et ça nous permet de rendre hommage également aux services de santé et à tous les soignants qui nous ont aidés dans la crise qu'on a traversée. Maintenant, on regarde devant nous. On se prépare à reprendre la mer début septembre. Et je crois que tout va bien. Et on sera heureux de repartir en mer en équipage.
Comme beaucoup de Français, les marins du porte-avions, plus des deux tiers ont été touchés par la Covid-19. Aujourd'hui, ils le disent, ils remercient aussi les personnels soignants engagés, des soignants militaires et civils mis à l'honneur. Une trentaine d'entre eux ont participé à l'animation finale en blouse blanche devant le drapeau français. Valérie, pharmacienne, en faisait partie.
On est un peu ému, forcément, c'est vraiment un honneur d'être là. C'est pas un exercice habituel, c'est la fête nationale, le fait d'être là en plus dans la partie en action, c'est unique.
Alors après les avoir longuement applaudis, le chef de l'État n'a pas oublié de remettre un masque pour se lever et pour aller les saluer. Il ne devrait plus tarder maintenant à regagner l'Élysée.
Merci à vous Nathalie Hernandez. Inédit également effectivement pour Emmanuel Macron le retour à l'interview du 14 juillet. Le chef de l'État avait jusqu'alors boudé cette tradition républicaine. Il va renouer avec elle tout à l'heure. 45 minutes d'entretien avec Gilles Boulot et Léa Salamé. Bonjour Pierre Neveu.
Bonjour Antoine.
Cette grande interview sera l'occasion pour lui d'expliquer ses grands chantiers politiques à maintenant 2 ans de la prochaine présidentielle.
600 jours, c'est la distance qu'il reste au président pour se réinventer. C'est le défi qu'il s'est fixé en changeant de gouvernement. La question lui sera posée, pourquoi a-t-il choisi Jean Castex pour incarner et porter ce nouveau chemin? Pourquoi a-t-il également validé les nominations de Gérald Darmanin à l'intérieur et de Éric Dupond-Moretti à la justice? Deux nominations qui font polémique concernant la crise sanitaire. Emmanuel Macron invitera les Français à ne pas relâcher leur effort. Port du masque, reconfinement partiel. En cas de reprise de l'épidémie, la question lui sera posée, comme il se félicitera également du Ségur de la Santé, signé hier avec une enveloppe de 8 milliards d'euros pour les soignants. Le chef de l'État devra également répondre aux inquiétudes nées de cette crise. Les faillites, l'augmentation du chômage, l'emploi des jeunes. Peut-être laissera-t-il au Premier ministre le soin de détailler le plan de relance, l'argent déployé pour les entreprises, les relocalisations, la consommation. Et dans cet inventaire, Emmanuel Macron sera interrogé sur les questions politiques du moment. La défaite de sa majorité au municipal, la progression des Verts et les réponses qu'il compte apporter à la Convention citoyenne pour le climat. Abordera-t-il également la question de la proportionnelle pour les élections législatives et à quelle dose? Annoncera-t-il la nomination d'un haut commissaire au plan pour incarner son nouveau chemin et qui à ce poste, pourquoi pas son allié du MoDem, François Bayrou? Voilà en 45 minutes les sujets qui seront mis sur la table. On surveillera Deux choses, les annonces bien sûr, et le ton, puisque cette interview doit marquer une rupture dans la communication du chef de l'État, peut-être le point de départ dans une course à la présidentielle, en privilégiant la proximité, l'explication de texte après de longues séquences d'allocutions solennelles.
Merci Pierre Neveu, et parmi les sujets délicats qui devraient être abordés lors de cet entretien, beaucoup d'économies, la réforme des retraites, le chef de l'État veut la remettre en route malgré l'opposition des syndicats et du patronat, Emmanuel Macron devrait également évoqué le plan de relance de l'économie et la priorité des priorités affichées, c'est les jeunes. Pour le moment, rien n'a été mis en œuvre. C'est donc sur ce terrain notamment qu'est attendu Emmanuel Macron. Catherine Pétillon.
L'attente est d'autant plus forte que les difficultés, elles, sont déjà là, témoignent toutes les organisations travaillant auprès des moins de 25 ans. Or, ces dernières semaines, rien n'a vraiment avancé sur ce terrain, hormis quelques mesures concernant l'apprentissage. Aux difficultés structurelles touchant la jeunesse s'ajoutent désormais les conséquences du confinement et la crise économique qui commence. L'Union des missions locales a mené une enquête auprès des jeunes qu'elle accompagne. 42% ont perdu leur emploi pendant le confinement et les trois quarts des jeunes n'ayant répondu citent comme principale inquiétude la peur de ne pas trouver d'emploi. Dans les faits, la crise économique se traduit déjà par la contraction de l'emploi et la baisse de l'intérim et des petits boulots, et beaucoup d'embauches sont retardées. L'autre gros sujet d'inquiétude pour tous ceux qui accompagnent les jeunes, ce sont les ruptures de formation, la multiplication des décrocheurs et des jeunes ni en formation ni en emploi. Enfin, sur le plan psychique, les situations critiques sont de plus en plus nombreuses. Face à cela, du côté de l'exécutif, les réflexions ont jusqu'ici surtout porté sur de nouvelles aides aux entreprises pour l'embauche des jeunes. Reste à trancher comment, nouvelles exonérations de cotisations sociales ou primes, et à quel niveau et conditions. Insuffisant, alerte déjà toutes les organisations de jeunesse et de solidarité. Il nous faut aujourd'hui tirer les leçons de 30 ans de politique de lutte contre la pauvreté des jeunes et définir enfin pour tous un droit à l'insertion, c'est-à-dire un droit à un accompagnement de qualité couplé à la garantie d'un revenu décent, écrivait-elle dans une récente tribune. Tout à l'heure, Emmanuel Macron pourrait tracer les grandes lignes de son plan pour la jeunesse. Pour les mesures concrètes, il faudra sûrement attendre le discours du Premier ministre, puis sa nouvelle rencontre avec les partenaires sociaux prévue à la fin de la semaine.
Deux manifestations avec notamment des soignants ce matin à Marseille, à l'appel du collectif Interurgence et de la CGT qui n'a pas signé les accords de Ségur hier. Mathilde Vinceneux, vous êtes à Marseille, devant la préfecture où le rassemblement vient tout juste de se terminer.
Oui, soignants, impatients, ils étaient une petite centaine rassemblés devant la préfecture, soutenus par Jean-Luc Mélenchon, le député France Insoumise est venu les rejoindre. Yves est représentant CGT à l'hôpital de la Timone. Pour lui, ni les médailles, ni ce défilé du 14 juillet ne suffiront à apaiser la colère.
Nous, on demande une vraie reconnaissance des salaires, des effectifs en conséquence, des conditions de travail dignes. Et ça, on n'a pas obtenu par le biais du Ségur de la Santé.
Et les soignants sont inquiets pour les prochaines semaines, alors que le nombre de contaminations au coronavirus augmente dans la région. Michel, infirmier.
Sur les masques, je pense qu'on sera doté. Sur les surblouses, on sera doté. Mais sur les moyens humains, on ne le saura pas. Voilà, les réas, on ne va pas les inventer du jour au lendemain. L'ouverture des lits, ils n'en parlent même pas. La main-d'œuvre, ils n'en parlent même pas. Donc rien ne change, enfin. Je ne sais pas si on sera capable d'affronter encore une deuxième vague comme on vient de subir.
Michel, qui se dit prêt, hein, comme tous ceux présents aujourd'hui, à manifester encore tout l'été, s'il le faut.
Merci à vous, Mathilde Vinceneux, en direct de Marseille. C'est une information révélée par nos confrères de France Bleu Pays Basque. Une plainte contre X pour dénonciation calomnieuse et diffamation après de fausses accusations sur les réseaux sociaux. Depuis l'agression mortelle du chauffeur de bus, Philippe Monguillot, des photos circulent sur Internet. Parmi elles, plusieurs mettent en cause de jeunes bâillonnés qui, a priori, n'ont rien à voir avec cette agression. Dans l'une de ces publications, abondamment reprises, on peut voir le portrait de deux personnes, accompagnées de messages indiquant qu'il s'agit des auteurs de l'agression, sauf qu'au moins un des deux jeunes hommes n'a a priori rien à voir avec l'affaire. Il a donc déposé plainte au commissariat de Bayonne hier après-midi. Sur place, le récit de Damien Mestre.
Il s'agit, selon nos informations, d'une plainte pour dénonciation calomnieuse et diffamation. Une plainte contre X qui ne vise donc personne en particulier, mais qui fait suite à la diffusion de messages par des personnalités politiques, comme Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National, ou bien encore l'eurodéputé Jordan Bardella. Tous deux ont en effet relayé ces photos, Marine Le Pen appelant à ce que la peur change de camp, et Jordan Bardella réclamant la perpétuité pour, je cite, « ces salopards ». Depuis, les messages ont été supprimés, mais cela n'a pas empêché la photo photos d'être partagées des milliers de fois même, généralement accompagnées de messages insultants, haineux, voire franchement racistes. À chaque fois, on reconnaît clairement Mourad, la personne qui a porté plainte, à tel point qu'aujourd'hui, ce jeune bayonnais dit raser les murs par peur d'être reconnu. Son entourage parle même de menaces de mort. Restent des interrogations concernant l'origine de la photo. Les proches de Mourad assurent qu'elle provient d'une garde à vue concernant une vieille affaire et se demandent comment le document a bien pu sortir d'un commissariat.
Midi 40 sur France Culture, dans l'actualité internationale. L'ouverture aujourd'hui devant la Cour pénale internationale du procès d'un djihadiste malien. Al-Hassan Agabdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, c'est son nom complet, est poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, viols et esclavage sexuel. Il est notamment impliqué dans la destruction de mausolées à Tombouctou en 2012 et 2013. Les explications de Claude Guibal.
À Tombouctou, tout le monde se souvient de ce jour de mars 2012 où les djihadistes d'Ansardine sont entrés dans la ville, leur drapeau noir flottant sur les bâtiments publics. Al-Hassan Agabdoulaziz avait alors une trentaine d'années. Au sein de la milice Touareg affiliée à ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, il prend la tête de la police des mœurs. C'est lui qui met en œuvre les décisions du tribunal islamique de la ville qui fait régner la loi des djihadistes. C'est lui qui participe à la politique de mariage forcé des femmes de Tombouctou aux combattants, pratique qui a donné lieu à des viols répétés et réduit les femmes et les jeunes filles à l'esclavage sexuel. Al-Hassan dirigeait une quarantaine d'hommes qui étaient chargés de faire appliquer la charia de la façon la plus rigoriste possible, flagellation, torture, amputation, et c'est sous sa direction, sous ses ordres, que ces hommes ont procédé à la destruction des mausolées de la ville, ces tombeaux des saints de l'islam qui avaient fait entrer Tombouctou, cité mythique, au patrimoine mondial de l'humanité. Ce sont les autorités maliennes qui ont remis Al-Hassan à la CPI en 2018. Avant lui, seul un autre djihadiste a comparu devant la Cour pénale internationale. C'était en 2016. Il a été condamné à 9 années d'emprisonnement pour avoir participé à la destruction des tombeaux.
Donald Trump et Jair Bolsonaro sont-ils responsables de l'aggravation de la pandémie aux États-Unis et au Brésil ? L'OMS ne va pas jusque-là, mais ça y ressemble. L'organisation s'en prend, je cite, aux dirigeants qui sapent la confiance de leur population dans le respect des gestes barrières. Les États-Unis et le Brésil cumulent à eux deux près de la moitié des nouvelles contaminations dans le monde. Encore 215 000 cas ces dernières 24 heures. À Genève, la correspondance de Jérémy Lange.
L'OMS n'a pas pour habitude de citer ses États membres quand elle distribue ses mauvais points. Mais difficile de ne pas penser aux États-Unis et au Brésil quand son patron affirme que trop de pays vont dans la mauvaise direction. Le virus est l'ennemi public numéro un, dit Tedros Ghebreyesus. Mais ça ne se voit pas dans l'attitude de beaucoup trop de gouvernements.
Les messages contradictoires envoyés par certains dirigeants détruisent le fondement principal de toute réponse, la confiance. Et si les gouvernements ne communiquent pas mieux avec leur population, et si les principes de santé publique les plus élémentaires ne sont pas suivis, alors cette pandémie ne va aller que dans un sens. Elle va aller de pire en pire.
La distanciation physique, le port du masque, l'hygiène des mains, ces gestes barrières ne sont pas assez respectés, dit l'OMS. Donald Trump a fait un pas timide en ce sens en s'affichant pour la première fois en public avec un masque. Son homologue brésilien, Jair Bolsonaro, pourtant contaminé par la Covid-19, le porte lui aléatoirement. La semaine dernière, il a encore mis son veto à une loi rendant le port du masque obligatoire dans plusieurs lieux publics.
L'arrestation de 2 Algériens ce matin à Barcelone. Selon des sources proches de l'enquête, ils préparaient un attentat. La police espagnole n'a pas confirmé cette affirmation révélée par une chaîne de radio. Téhéran a exécuté un Iranien reconnu coupable d'espionnage pour les États-Unis. Il était accusé d'avoir vendu des informations sur le programme de missiles du pays. La peine a été exécutée la semaine dernière et annoncée aujourd'hui par un porte-parole de la justice iranienne. Dégradation du temps aujourd'hui par le nord. La pluie va dominer au-dessus de la Loire et du coup les températures vont chuter. 17 degrés seulement au Havre, 22 à Paris, 30 degrés à Perpignan. C'est la fin de cette édition préparée avec Brice Garcia. Prochain journal à 18h avec Benoît Bouscarel.